Nous sommes au Centre culturel Belvédère, à Mugron, où nous débutons la conférence « Comment concilier sobriété foncière et besoin d'accueil des territoires ?» Nous sommes le mardi 2 juillet 2024. Cette conférence se tient comme introduction à l'étude autour des formes urbaines des villages landais et des hypothèses de densification respectueuse de la qualité urbaine dans une logique de sobriété foncière. Cette dernière est menée par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Landes, accompagnée d'un groupement pluridisciplinaire, composé de Selva Emogin, architecte et urbaniste, Tout-Terrain, architecte, urbaniste et médiateur, Antoine Mounier, architecte, Antoine Maréchal, illustrateur, et Clara Choulet, graphiste. Cette conférence propose d'introduire les notions de sobriété foncière et de villes et villages stationnaires pour se questionner collectivement sur les nouveaux modèles d'aménagement à adopter. Elle est menée par Clémence de Selva Emogin, modérée par Tiffaine Sirio, de Tout-Terrain, et introduite par Antoine Mounier. Partie 4, l'Atlas du foncier invisible, un retour d'expérience de territoire pilote de sobriété foncière. Donc les pistes que tu évoques, elles ont été développées dans le cadre de l'étude de territoire pilote de sobriété foncière notamment, pour amener cette nouvelle lecture et ce nouveau regard sur les ressources des territoires urbains et ruraux. Ce travail, il est rassemblé dans l'Atlas du foncier invisible, qui est ici. Peut-être que tu peux le présenter et aussi expliquer comment une application pourrait être possible dans le territoire des Landes.
Alors oui, c'était la continuité de la réflexion sur le territoire pilote de sobriété foncière de Poitiers. C'était l'idée de donner un panorama finalement le plus complet possible de toutes les situations permettant de produire des mètres carrés sans forcément avoir à les construire et sans artificialiser. Donc avoir une espèce de regard sur notre territoire et notre patrimoine qui soit plus seulement une vision patrimoniale ou une vision économique ou une vision vraiment d'urbaniste, mais en fait une vision sobriété foncière. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ferait ? Comment est-ce qu'on regarde de manière... comment est-ce qu'on on change de regard un petit peu sur notre patrimoine bâti et foncier et urbain sous l'angle de la sobriété foncière. En fait, où est-ce que, sous cet angle, quelle est la ressource ? C'est presque très scolaire, finalement, comme outil. C'est un outil aussi à destination à la fois des élus, à la fois des techniciens, des collectivités, de ceux qui travaillent dans les PLU et qui font la ville, avec une volonté de déjargonner aussi un petit peu le vocabulaire, c'est-à-dire qu'on parle d'intensification, de renouvellement urbain, mais ça désigne quand même à chaque fois des notions très différentes. Donc là, on s'est juste demandé qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour ne pas avoir à construire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour... ou qu'est-ce qu'il faudrait que je regarde si j'ai besoin de construire. En s'interdisant évidemment les espaces d'extension urbaine parce que c'est le but de l'exercice. Quoi. Le but aussi, c'est de montrer que aux élus principalement aussi et à tous les acteurs de la fabrique de la ville que la sobriété foncière, elle est dans la variété des situations, c'est un peu comme le mix énergétique, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va pas réussir avec seulement l'éolien ou seulement des barrages hydroélectriques, il va nous falloir un mix de solutions. Ben là c'est pareil pour la sobriété foncière, c'est un mix de solutions et tous les territoires n'ont pas de friches industrielles ou alors n'ont pas de d'entrée de ville par exemple très peu dense, mais par contre presque tous ont des lotissements très peu denses ou des zones d'activité très peu denses ou des centres-villes où il y a beaucoup de vacances. Presque toutes ont de la sous-occupation, enfin à part peut-être les zones très très tendues, mais disons que dans le reste du territoire on peut presque partout se dire que les grandes maisons sont déjà là, que globalement le bâti est déjà là. Donc c'est l'idée de ce mix de solutions et l'idée aussi de se dire que le quelque part, le recensement, c'est une première partie de l'exercice, c'est-à-dire comprendre ce qu'on va chercher avant de faire un vrai gisement, comme font les établissements publics fonciers ou comme font des bureaux d'études qui font des gisements qui sont repérés sur des cartes. Il faut avant ça se poser la question de exactement qu'est-ce qu'on cherche, parce que la cartographie, enfin, tout n'est pas cartographiable en fait. La vacance, la sous-occupation, tout ça, c'est pas vraiment cartographiable, c'est plutôt des questions qui sont statistiques, et le diffus, le gisement, il est aussi diffus. C'est un peu peut-être la fin des grands gisements d'un seul tenant qu'on peut actionner en une seule fois, même si c'est difficile, mais en tout cas, le gisement, il est aussi diffus, donc c'est plutôt comprendre ce qu'on va chercher avant de programmer un vrai gisement par un bureau d'études. Et la question qui se pose aussi, le corollaire de la question du gisement, c'est questionner la manière de faire projet. C'est-à-dire, une fois qu'on sait quoi aller chercher, en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour... pas que les questions rentrent en concurrence les unes avec les autres. Je donne juste un exemple, par exemple, sur une friche, est-ce qu'on va la renaturer ? Est-ce qu'on va lui installer une ferme photovoltaïque ? Ou est-ce qu'on va, au contraire, densifier, créer justement des logements, par exemple, du petit collectif, parce qu'on est proche du centre-ville ? Qu'est-ce qu'on fait, en fait ? Le fait d'avoir identifié la friche, ça ne nous a pas fait répondre à cette question-là. Or, on sent bien qu'il va falloir y répondre au cas par cas, quelque part, et que ça va nécessiter une forme de stratégie foncière et une stratégie urbaine, tout simplement. Et on va avoir besoin, pour qualifier ces fonciers qu'on a identifiés, pour savoir quoi faire, il va falloir avoir un coup d'avance, quelque part, savoir à l'avance ce qu'on va vouloir y faire, donc faire de la... mettre en projet le territoire et mettre en projet l'aménagement du territoire. Alors, c'est facile à dire. on avait mis au point un petit un guide de questions à se poser systématiquement, par exemple. Donc, la première question, c'est comment aussi accompagner la transition écologique ? Parce qu'on a bien compris que cette histoire de zéro artificialisation nette ou de sobriété foncière, c'est juste un maillon. C'est le maillon urbain de la transition écologique, quoi. Donc la question qu'on peut se poser à chaque fois qu'on fait projet en ville, c'est comment j'accompagne aussi la transition. Et du coup, par exemple, typiquement, intervenir sur le bâti, ça ne peut pas se faire sans rénovation thermique, par exemple. À partir du moment où, si je prends un grand bâtiment, je le transforme en deux logements, je le rénove aussi, parce qu'en fait, j'ai aussi besoin d'avancer sur mon programme de rénovation thermique. C'est aussi la question de la désimperméabilisation, de retrouver un petit peu... En ville, on a toujours besoin d'espace, de la place du végétal. On a besoin de conserver une place du végétal en ville, même si on densifie. On va pas boucher... faut lutter contre la tentation, quelque part, de boucher les trous aussi. Donc, il faut se poser la question au cas par cas de où est-ce que je densifie, où est-ce que je remets un peu de... Où est-ce que j'enlève un petit peu de bitume. La deuxième question, c'était comment bien programmer. C'est évident qu'il faut faire la chasse aux produits génériques, quelque part, parce que les produits génériques, ils ne règlent pas la question ni du logement résidentiel, ni du mal-logement, ni de rien du tout, finalement. Le produit générique, il fabrique de la vacance, quoi. Donc la question de comment bien programmer pour avoir moins à construire. Et puis après, tout ça, cette sobriété foncière, elle va faire qu'on intervient sur des territoires où il y a déjà des gens, puisque en fait, c'est la ville sur la ville, donc c'est la ville sur les gens aussi. Donc ça veut dire qu'on va intervenir dans des endroits où il y a déjà une occupation, déjà un usage, et donc il va falloir faire avec les gens. On va pouvoir intensifier ou densifier la ville sur la ville, mais disons que si on ne prend pas en compte les gens qui sont déjà là, leur cadre de vie, comment est-ce qu'on leur apporte du mieux aussi pour des aménités en plus, comment est-ce que on intervient sur les espaces publics aussi, comment est-ce que je rajoute un petit service ici, parce que si je rajoute 10 logements, je sais que je vais avoir besoin de un espace mutualisé pour le stationnement, ou un espace mutualisé ou un jardin en commun. Comment est-ce qu'on fabrique des communs, quelque part, et comment est-ce qu'on fabrique on a une attention au cadre de vie de ceux qui sont déjà là et au cadre résidentiel en général. Donc, voilà. Après la question du gisement, il y a aussi la question de l'attention au territoire, du projet aussi incarné et adapté à l'endroit où il se trouve. Donc, là, justement, dans l'étude qu'on est en train de commencer, c'est la question de l'identité des villes et des villages. Il n'y a pas de raison de pas pouvoir densifier ou inversement, peut-être retrouver un peu d'air dans une bastide, dans un village aérial, dans une ville rue. Comment j'interviens plutôt sur les coteaux de Chalosse ? Est-ce que je fais différemment de ce que je ferais dans un village vraiment du plateau, du massif landais. Disons qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont vraiment génériques sur la manière de repérer la ressource, mais il y a aussi des éléments qui doivent être très incarnés, au contraire, dans la manière de répondre par le projet à toutes ces questions. En conclusion, peut-être. Évidemment, tout ça, toutes ces ressources dont on parle, elles ne sont pas forcément là où on a besoin qu'elles soient. Disons que pour mobiliser pleinement ce territoire, ça c'est plutôt la question de l'ouverture, mais évidemment, il faut aussi changer d'échelle, c'est-à-dire que... On sent qu'on va avoir besoin de s'appuyer, que des villes qui sont plus en tension, là on pense plus aux grandes villes ou aux littoraux, puissent s'appuyer aussi sur des territoires ressources qui sont pas forcément, enfin qui sont peut-être juste à leur porte justement, mais que tout ça est une question aussi d'aménagement du territoire à plus grande échelle. De réciprocité entre territoires, de coopération entre territoires. C'est pour ça qu'avec la planification écologique et avec la planification foncière, enfin le zéro artificialisation net, c'est vraiment le pendant, c'est cette question de la coopération entre territoires peut-être sous tension et territoires ressources. Mais la bonne nouvelle, quelque part, c'est que ce changement d'échelle, c'est exactement le même que celui dont on a besoin pour la transition écologique. Donc comment est-ce qu'on travaille sur les démobilités pour rapprocher les zones d'emploi des zones résidentielles ? Comment est-ce que la refonte du système agricole va aussi nécessiter plus d'emplois dans les campagnes, plus de fermes, donc plus de personnes dans les villages aussi, un peu plus peut-être. La relocalisation industrielle aussi, ça raconte ça aussi, c'est-à-dire c'est plus de besoins hors des grandes villes. La rénovation thermique, c'est aussi des emplois non délocalisables, c'est des emplois situés aussi. Donc, cette sobriété foncière, elle résonne très très, très très fortement avec la planification écologique et avec la transition écologique en général, et cette question de réciprocité entre territoires et de coopération, c'est plutôt quelque chose d'enthousiasmant finalement. Disons que si on prend vraiment au sérieux la ZAN, si on laisse de côté les querelles de chiffres et de répartition de zones à artificialiser, disons que si on prend vraiment au sérieux cette notion, je pense qu'il y a quelque chose d'assez enthousiasmant dans le projet territorial qui y a derrière.